l'Église Makepe Israël, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le revoyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couronne nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité.
Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche.
Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer.
Mardi 23 mars de l'an de grâce 2010, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de cette émission « Au rythme de Dieu ». Alors qu'il est 3 minutes passées, 20h30 passées de 3 minutes, pardon, nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis auditeurs. Vous donc la fidélité, honore le Seigneur à l'écoute de cette émission. C'est au rythme de Dieu, c'est sur la fréquence de vie, la 107.8, la radio Vie Nouvelle. Au rythme de Dieu, c'est une émission qui est préparée et présentée pour vous par la communauté Israël Makepe de la Cameroon Baptist Convention. Au rythme de Dieu, c'est tous les mardis 20h30, 21h30, 60 minutes d'entretien, 60 minutes d'exhortation, 60 minutes également d'accompagnement sur les pas de Jésus, afin que votre vie soit conforme à celle qui nous donne la vie. Au rythme de Dieu ce soir, la prise de son, Emmanuel Sanfac sur ce plateau, le pasteur Emmanuel Koum qui nous entretiendra pendant cette émission. Noé Ngachou n'est pas avec nous physiquement mais en esprit. Bonsoir pasteur.
Bonsoir Noé qui n'est pas là, bonsoir Guy, bonsoir Emmanuel et nous saluons tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes très heureux de vous savoir vraiment nombreux. Nous avons reçu la visite de quelques-uns parmi vous dans la semaine. Et je crois que le Seigneur nous a tous bénis ensemble.
Amen. Sur quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants? Quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants, bien-aimés? C'est le thème que nous allons débattre ce soir, accompagné du pasteur Emmanuel Koum. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui nous rejoignez. Et nous vous rappelons simplement que vous êtes à l'écoute au rythme de Dieu. Mais avant de commencer, nous vous prions de vous asseoir, vous installer et partager ces moments avec nous. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, pendant que nous voulons vous inviter à partager la parole avec nous, nous vous prions de lever votre âme et de communier avec notre Dieu. Notre Dieu est dit de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et par sa volonté que toutes choses existent. Nous lui disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous lui disons merci pour tous ses bienfaits en nous, pour sa grâce qui nous accompagne en toutes choses. Saint, tu nous as créés pour que nous puissions te glorifier.
En ton nom, Seigneur, tout le temps.
Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu,
Seigneur.
La nature entière parle de toi. Toute la création, Seigneur, élève ton nom. L'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est toi qui as placé les bornes de la terre et tu sais où ça se trouve. Les bornes de ce monde, Seigneur. Ta majesté s'élève. Et ton nom est glorifié, notre Dieu. Avec le psalmiste, nous disons, quand nous contemplons les cieux, œuvre de ta main. La lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui envoies Jésus pour le salut de ton âme, de son âme. Merci pour le sang qui a été versé. Merci pour toi qui nous as aimés avant toute chose. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Oui Seigneur, tu es digne Seigneur, tu mérites d'être adoré Seigneur pour ce que tu es Seigneur. Toi qui décides de toutes choses, tu fais de la terre ton marchepied. Seigneur, que serions-nous sans ta présence? Toi qui es l'auteur, le consommateur de notre foi, notre raison de vivre. Seigneur, la terre entière manifeste, Seigneur, ta grandeur.
Oh Seigneur Jésus.
Seigneur, la créature, à chaque instant, Seigneur, exalte ton nom. Seigneur, il n'y a que de se retourner et regarder. Et te voir au travers de ce qui nous entoure. Père, tu es digne de recevoir la louange.
Oui, Seigneur.
Seigneur, béni sois-tu.
Béni sois-tu,
Seigneur. Seigneur, sois exalté encore. Ô Père éternel, louange et adoration, Seigneur, à toi seul. Merci parce que tu es celui qui met en nous le souffle de vie. Parce que tu dis que tu es venu afin que nous ayons la vie en abondance.
Oh Seigneur Jésus.
Merci pour l'abondance de vie. Merci Seigneur pour ce qu'au-delà de toutes choses, Seigneur, tu nous donnes, Père éternel, d'être auprès de toi et loin de ce monde, Seigneur. Même qu'étant au milieu de ce monde, Seigneur. Merci parce que tu en es digne. Oh Seigneur.
Digne es-tu, Agneau de Dieu.
Alléluia, Seigneur.
Digne es-tu, Agneau de Dieu. Je te célèbre, Père. Je proclame ta majesté. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Et remplis ceux qui nous suivront ce soir de ta présence et de ta sainteté. Seigneur, nous prions que ta parole que nous allons partager puisse nous ramener sur le droit chemin et nous permet de marcher dans tes voies. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, Seigneur.
Quel bonheur de t'appartenir, le seul garant.
Quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants? C'est ce dont nous parlons ce soir, chers amis auditeurs. Et nous en parlons, c'est sur la fréquence de vie, la 107.8, la radio Vie Nouvelle. Vous écoutez Au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu, c'est tous les mardis, sur la fréquence de vie. 77-96-29-29, c'est le code d'accès à cette émission, à laquelle vous êtes désormais partie prenante. 77-96-29-29. Quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants? Nous comprenons très rapidement la responsabilité que nous avons en tant que parents et en tant que futurs parents déjà. Parce que l'héritage est tout ce qu'on peut laisser, tout ce qu'on peut léguer hein, à sa progéniture, tout ce qu'on accorde ainsi à ceux qui sont issus de nous. Donc, quel type d'héritage dans le sens où quelle qualité, hein, qualité de ce que nous pouvons léguer. Parce que ce que nous pouvons léguer peut être avantageux ou désavantageux, ça peut être positif ou négatif, ça peut être comme le bien comme dans le mal. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons cette obligation de céder ou de concéder quelque chose à ceux qui sont issus de nous. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec le pasteur Emmanuel Koum. Une fois de plus, bonsoir pasteur.
Oui, bonsoir Guy. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir.
Et déjà, un thème pareil devrait nous interpeller à encore plus de réflexions à ce que nous faisons aujourd'hui comme étant la base ou la cause de ce que nous pouvons récolter comme demain, comme dit la Bible. Ce que nous sémons, nous le moissonnons effectivement, et cela pour notre condamnation ou pour notre justification.
Ouais. C'est effectivement, les bases que nous posons sont celles qui, demain, pourront nous amener à jouir profondément de la félicité céleste et même terrestre. On peut bien commencer et mal terminer, ou bien mal commencer et bien terminer.
Mais ou alors mal commencer et mal terminer.
Et c'est ces trois cas que nous verrons ce soir.
Absolument.
Et la meilleure, c'est de bien
commencer et bien terminer surtout.
Bien terminer surtout. Et malheureusement, beaucoup ont bien commencé et mal terminé. Beaucoup ont vraiment bien commencé et mal terminé. Et ont laissé derrière eux du feu. Et c'est ce que nous voulons véritablement voir ce soir, à la grâce de Dieu. Et que ça nous conduise vraiment.
Amen. C'est ce dont nous allons parler ce soir, chers amis auditeurs. Et tout rapidement, je peux me souvenir ainsi du texte où les pharisiens, après avoir réclamé la mort et la condamnation de Jésus, ont dit expressément que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et par là, une parole qui non seulement les condamnait, mais également ceux qui devaient être issus d'eux. On peut pratiquement transmettre, peut-être sans le savoir, et même de manière exprès, transmettre à sa progéniture une situation dont ils n'ont pas été responsables, mais de laquelle ils peuvent se libérer totalement, dans la mesure où c'est le pécheur qui est sanctionné, c'est le pécheur qui meurt. Donc, dans ce cas, les parents ne mangent plus les figues et les enfants ont mal aux dents.
Non, ça a changé depuis Ézéchiel déjà et accompli en Jésus-Christ, qui est venu avec la grâce. Mais déjà avec Ézéchiel, le Seigneur avait levé cette sanction, cette loi de punition qui va de génération
en génération.
En génération, il avait rendu chacun responsable de son péché et de la punition d'Ézéchiel 18. Mais ce qui est quand même évident, c'est que la mauvaise gestion de la vie de quelqu'un a une influence
sur son environnement.
Nous avons un impact, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la vie des autres. Donc, avant que quelqu'un ne se libère de cet impact par la nouvelle naissance, il peut subir cet impact. Il peut subir, je veux dire, par exemple, un homme qui meurt et qui laisse beaucoup de dettes. Ses enfants sont
appelés à les rembourser.
S'ils veulent entrer dans leur héritage, on leur perd totalement l'héritage. Mais s'ils veulent entrer dans leur, ils sont obligés de payer les dettes. Donc, s'ils croient au Seigneur Jésus, certainement ils vont se libérer d'une certaine manière, je ne sais pas. Mais, en fait, il y a toujours cet impact de nos ascendants sur nous. C'est vrai que je ne veux pas aller dans le sens où on va dire qu'il faut couper les liens. Non, non, je ne suis pas pour cette prédication de couper de liens. Parce que si le fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Et il coupe tous les liens à la nouvelle naissance. On n'a pas besoin de les couper encore. Mais nous voulons dire que même de notre vivant, il y a un impact de la vie des autres sur nous.
Et c'est même de manière pragmatique, sur la base de l'exemple que vous avez donné, et bien d'autres. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec des exemples tirés issus de la Bible. Quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants? Quel type d'héritage laissons-nous à nos enfants? Nous pouvons décider dès maintenant d'offrir à nos enfants le meilleur de ce que nous avons ou le meilleur de ce que nous pouvons espérer, ou alors leur offrir la poubelle, le reste de ce que nous voulons. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes à l'écoute. Nous vous invitons à écouter cette aire musicale de Armand Djegolta. Je veux faire ta volonté.
Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
Je médite ta parole, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je médite ta parole et je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
Mes ennemis se lèvent, toi tu te lèves, tu les disperses, car ta loi est au fond de mon cœur. Mes ennemis se lèvent, toi tu te lèves, tu les disperses, car ta loi est au fond de mon cœur.
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur.
Oh Yahweh,
je veux faire ta volonté, mon Dieu.
Car ta loi. Se lève, toi tu te lèves, tu les disperses, car ta loi est au fond de mon cœur. Mes ennemis se lèvent, toi tu te lèves, tu les disperses, car ta loi est au fond de mon cœur. Oh Yahweh,
je veux faire ta volonté, mon Dieu.
Et ta loi est,
et ta loi est au fond de mon cœur.
Oh, je veux faire
faire ta volonté, et car ta loi est au fond de mon cœur. Faire ta volonté afin d'en tirer pleinement profit, afin de tirer bénéfice pour moi, pour ma vie, également pour ma progéniture. Quel type d'héritage pour nos enfants? C'est ce dont nous parlons ce soir, amis auditeurs. Et très rapidement, je vais laisser la parole au pasteur Emmanuel Koum qui va nous entretenir ce soir. Vous pourrez par la suite réagir en appelant 77 96 29 29, 77 96 29 29. Mais avant, bien aimé, cher ami auditeur, nous souhaitons que vous prêtez grandement attention et à ce que le pasteur nous dira tout à l'heure. Je vais rapidement lui passer la parole.
Merci Guy, et nous sommes encore une fois très ravis ce soir de pouvoir partager ces instants avec tous nos auditeurs. Nous voulons d'abord commencer par parler de... Nous voulons surtout parler de l'héritage qui restera. Parce que très souvent, les parents chrétiens ont amené leurs enfants à pouvoir rater l'héritage spirituel. Parce que beaucoup parmi eux s'attellent à bâtir leur vie et la vie de leurs enfants. Ils s'attellent à créer un univers matériel tel que les enfants puissent, après leur mort, avoir un héritage. Mais ce que nous allons voir là tout à l'heure, c'est que bien que parfois les parents ont laissé des grosses sommes d'argent et même des bâtisses, leurs enfants n'ont pas pu jouir de leur héritage, tout simplement parce que les parents n'ont pas laissé le bon héritage aux enfants. Et parce que ces enfants n'ont pas eu le bon héritage, ils se sont tout simplement détruits. Parfois, c'est même Dieu lui-même qui a détruit cet héritage. Et là, nous voulons un peu insister depuis un bon bout de temps. Quand nous avons parlé la dernière fois de Josaphat, qui s'était allié à Acab pour aller en guerre, et plus tard à un roi qui faisait de très mauvaises choses, et Dieu a détruit leur commerce. Nous voulons appeler les serviteurs, ceux qui nous écoutent ce soir, à savoir qu'il y a des choses qui arrivent dans vos vies qui viennent directement de la part de l'Éternel. Je me rappelle encore une fois, Dieu disait à Israël, « Cela est venu de moi, n'entrez pas en guerre pour rien, parce que c'est moi, c'est de moi. » Ah oui, c'était quand Dieu avait divisé le royaume après Salomon, il dit à Judas, « Cela est venu de moi, c'est moi qui ai voulu que ce soit comme ça. » Donc il y a des choses qui vous arrivent, qui ne sont pas de la main de l'ennemi, mais c'est Dieu qui veut que ces choses soient comme ça, où vous perdez tout dans votre vie, afin que vous puissiez être plus sage encore. Ce n'est pas l'ennemi. Et ce soir, nous allons voir combien les chrétiens aujourd'hui s'attellent, que ce soit dans le plan de l'Église ou dans le plan de la vie personnelle, familiale, à vouloir laisser quelque chose à leur progéniture, mais leur progéniture ne rentreront jamais dans le fruit du travail de leur père, parce que les parents ont laissé un très mauvais héritage. Quand nous sommes dans le livre de Rois, le premier livre de Rois, au chapitre 11, versets 9 à 13, la Bible nous dit:
L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis: qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Alors l'Éternel dit à Salomon, « Puisqu'il en est ainsi avec toi, et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonnées, je vais déchirer certainement le royaume pour te l'ôter, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. »
Amen. Nous voyons un homme qui a reçu un bel héritage de son père. Et nous le savons, avant qu'il meure, il lui rappelle encore d'aimer l'Éternel de tout son cœur, et qu'en marchant dans les voies de l'Éternel, il sera béni. Et effectivement, Dieu lui apparaît deux fois, tout au moins, et lui fait une promesse, non seulement de lui donner la sagesse, mais de le rendre riche, plus qu'aucun roi ne l'a été. Donc, voilà un homme qui reçoit l'héritage de son père. Et cet héritage est venu d'un homme qui marchait dans la droiture et dans l'intégrité du cœur. Et la droiture de David était tellement forte que même quand il péchait contre Dieu, le premier geste était la repentance, la demande de pardon et la réconciliation avec son Dieu. Mais dans le texte que nous sommes en train de lire, alors que Salomon avait joui pendant la totalité de sa vie avec ses enfants d'un royaume de paix, d'un royaume de joie, d'un royaume où, si vous lisez ce que Salomon mangeait chaque jour à sa table avec ceux qui mangeaient avec lui, je crois que tout doit là et pouvait manger et se rassasier de ce qui était servi sur la table de Salomon chaque jour. C'était vraiment une vie de faste. Ce qu'on aurait dû attendre de Salomon qui a connu Dieu et qui a marché avec Dieu, c'était qu'il puisse rester ce même héritage de vie faste à ses enfants, ce même héritage des enfants qui ne manquent de rien et qui vivent dans un royaume de paix et de joie. Mais voilà ce que dit l'Éternel et voilà ce que proclame l'Éternel par rapport à l'héritage que Salomon va laisser à ses enfants. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne marchait plus dans les justices et dans l'intégrité du cœur. La Bible nous enseigne que Salomon avait oublié lui-même ce qu'il avait prescrit par rapport à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, disait Salomon dans le livre des Proverbes. Et Dieu donc viendra déclarer quel genre d'héritage Salomon va laisser à ses enfants. Il dit, et il lui avait à cet égard défendu, et l'Éternel dit à Salomon, je voulais dire, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Tu reçois un héritage bien. Mais maintenant, ce que tu lègues aux autres, c'est plutôt la destruction. Les enfants de Salomon ne pourront pas jouir de la totalité de ce que leur père avait joui. Ils n'auront que le 12e, c'est-à-dire une tribu, de ce que le père avait eu quand son père mourait, de ce que Salomon avait eu quand David mourait. Et comme nous le disons, le problème est venu de quoi? Salomon qui s'était approché tout simplement de cette femme étrangère a fini dans sa vieillesse ne plus avoir cette force, cette puissance qui pouvait obliger cette femme à aller adorer l'Éternel dans le temple. C'est elles qui ont changé le cœur de Salomon, qui est passé de l'amour de l'Éternel à la haine de l'Éternel, de l'amour de la justice à la haine du péché à la haine de la justice. Et il s'est donc éloigné totalement de l'Éternel. Frère, nous sommes en train de parler avec Salomon de ces chrétiens qui ont bien commencé leur vie et qui étaient très zélés, très humbles pendant qu'ils n'avaient pas de travail, qui étaient très zélés pendant qu'ils manquaient de tout, qui étaient dans la prière, qui cherchaient la face de l'Éternel pendant qu'ils étaient étudiants. Mais quand ils ont commencé à avoir l'élévation du Seigneur, ils ont commencé à se frotter aux femmes étrangères. Ces femmes étrangères qui sont peut-être leurs camarades, leurs collègues au bureau. Ces femmes étrangères qui sont leurs collègues au bureau qui ont commencé à leur apprendre. Non plus aller évangéliser dans les rues de la joie, mais aller prendre, je ne sais pas moi, un sandwich dans un tourne-dos. Et du tourne-dos, ils sont passés à d'autres choses. Et vous vous imaginez donc comment progressivement ils ont commencé à vivre le laxisme spirituel, à relativiser le péché, et progressivement, eux qui ont joui pendant un bon bout de temps d'une vie faste, qui ont même commencé à enseigner à leurs enfants de connaître le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, ont progressivement commencé à relâcher, et à la fin, c'est les autres qui ont tourné leur regard vers le monde, vers le Dieu de ce monde. Et Dieu a tout simplement arraché la bénédiction de leur tête. Ses frères ont construit des belles maisons parce qu'ils sont directeurs. Ses frères ont eu de grosses voitures parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils sont chefs de personnel, parce qu'ils ont un bon travail. Ils ont bâti beaucoup de choses, mais tout ce qu'ils ont bâti, leurs enfants vont les détruire en deux jours. Je me rappelle un frère, un évangéliste que j'aime beaucoup, qui me disait, sa mère, sa sœur est morte aux États-Unis. Sa sœur était une femme qui craignait Dieu. Mais ses enfants n'ont pas reçu un bon héritage, c'est-à-dire marcher dans la droiture et dans la justice. Elle avait laissé des millions de dollars à leurs enfants, à ses deux enfants, ses deux garçons, qui ont dilapidé cet argent en moins d'un an. Et le frère me dit, Emmanuel, ses enfants ont reçu un héritage financier très fort, mais un piètre héritage spirituel. Et la conséquence est là. Ils ont détruit en deux jours ce que leur maman avait amassé en beaucoup d'années. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? Les biens matériels, de l'or, de l'argent. Beaucoup de parents, aujourd'hui, nous le savons, parents chrétiens, refuseront à leurs enfants d'aller aux réunions de prière, d'aller aux réunions d'évangélisation, de vaquer même aux activités chrétiennes parce qu'ils ont un examen qu'ils doivent passer. Et immédiatement, ils montrent à leurs enfants que l'école, le travail, la recherche des biens de la terre sont plus importants que la consécration totale à l'Éternel qui peut tout pour toi. Et à la fin, voilà l'héritage qu'ils recevront et ils seront étonnés que leurs enfants vont gâcher leur vie. Comme Salomon vient de gâcher tout ce que son père lui a donné, lui a laissé dans le travail, dans sa marche, dans la justice et dans l'intégrité, avec ce que Dieu a ajouté dans la vie de Salomon. Si nous marchons un peu plus, nous allons lire dans le livre de Deux Rois, au chapitre 18, versets 1 à 8. Nous allons découvrir un homme qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée.
Deux Rois, chapitre 18, versets 1 à 8. La troisième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
Verset 5.
Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui et observa ses commandements, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises. Il se révolta.
Et nous pouvons nous arrêter là. Et quand vous allez lire la suite de la vie d'Ézéchias, cet homme devint riche. Et même très riche, parce qu'il a réussi dans toutes ses entreprises et Dieu était avec lui. Il devint donc riche et il a vécu dans l'opulence avec ses enfants. Cet homme devait donc en réalité laisser un très bel héritage à ses enfants. Un héritage d'argent, je veux dire, un royaume bien bâti, un royaume rendu riche par l'Éternel, parce que il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 3, il était entièrement à l'Éternel comme l'était David son père. Il mit sa confiance en Dieu et personne avant lui, en dehors de David, n'avait fait comme Ézéchias avait fait. Mais quand nous allons lire un peu plus loin, nous allons nous rendre compte que Ézéchias, parce qu'il était devenu riche, son cœur avait totalement tourné et il n'était plus totalement acquis à l'Éternel. Quand nous lisons par exemple en 2 Chroniques, au chapitre 20-32, hein, verset 25, nous allons nous rendre compte que Ézéchias était déjà totalement devenu amoureux de l'argent. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem, et Dieu mit Ézéchias à l'épreuve. Ézéchias ne répondit point au bienfait de l'Éternel. La Bible nous dit que Ézéchias était malade et il allait mourir. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Et Ézéchias a prié, le Seigneur lui a encore ajouté 15 ans. Et ce qui se passe, c'est que Ézéchias, quand les envoyés sont venus de Babylone, il ne leur a pas parlé des bienfaits de l'Éternel. D'un Dieu qui guérit les malades, d'un Dieu qui chasse les démons, d'un Dieu qui accomplit des merveilles dans la vie de celui qui les craint, il les a plutôt amenés dans la maison du trésor pour montrer à ces personnes toute la richesse que lui, le roi Ézéchias, avait eue de la part de l'Éternel. Et cela a irrité l'Éternel. Bien aimé, nous nous rendons compte à plusieurs égards que quand nous prions pour la guérison de nos maladies, est-ce que nous prions pour la gloire de l'Éternel ou nous prions pour rester encore dans ce monde et jouir des biens matériels que nous avons? Et c'est ce qui se passe dans la vie d'Ézéchias. Je me demande, quand les églises prient pour que le Seigneur puisse leur donner de l'argent pour construire les églises, pour la prospérité ou pour quelque chose, c'est pour démontrer aux hommes de ce monde que les chrétiens ne sont pas les moindres rien. Pour les chrétiens doivent aussi rouler dans des grosses voitures, avoir des belles églises, des belles maisons et tout. Et la preuve, c'est que à la fin, l'héritage que ceux qui sont passés avant, les pasteurs et tout, ont laissé et que Ézéchias va laisser à sa maison, ce sera tout simplement la destruction. De Rois chapitre 20, versets 12 à 13.
De Rois chapitre 20, versets 12 à 13. En ce temps-là, en ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Ésaïe...
Ézéchias leur montra toutes ces choses. Et la Bible nous enseigne, comme je disais, Dieu a voulu l'éprouver pour montrer son cœur, pour que Ézéchias sache la réalité de son cœur. Et quand nous lisons dans ce même texte des versets 18 à 20, 2 Chroniques chapitre 32, 2 Chroniques chapitre 2 Rois, pardon, chapitre 20, versets 18 à 20.
Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Il ajouta, il y aura paix et sécurité pendant ma vie, n'est-ce pas?
Oui, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. On saura même que c'est un roi qui est totalement inconscient. Dieu déclare qu'il y aura destruction de ses enfants, l'héritage que Ézéchias finit par laisser à ses enfants. Regardez, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Ézéchias avait beaucoup d'argent, il avait de la considération. Dieu a guéri sa maladie et lui a ajouté 15 années de plus. Mais Ézéchias, Dieu nous démontre qu'en réalité, quand il priait l'Éternel, c'était à cause des biens de la terre, à cause des choses de ce monde. Et quand Dieu va le punir, il ne se plaint pas, il dit plutôt, c'est une bonne parole parce que pendant ma vie, je vais vivre, mais tout va s'arriver pendant que mes enfants seraient, ou sera, arrivera au temps de mes enfants. Il est d'accord de laisser un héritage trouble à ses enfants. Il est d'accord de laisser une maison détruite à ses enfants parce que l'Éternel a prononcé. Il ne peut même pas se plaindre. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il va encore jouir de ses biens pendant 15 ans et après lui, c'est le déluge. Vous ne pouvez pas imaginer cette inconscience. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de multiples bagarres pour les biens dans les églises. Des églises qui sont divisées. Et qui font même la une des journaux. Et nous nous rappelons que ces églises avaient jeûné, prié pour l'achat du terrain, pour la construction de cette église. Mais en fait, c'était pourquoi? Pour montrer l'orgueil du pasteur, pour que les gens voient l'œuvre et se glorifient, ou bien c'était pour l'Éternel. Et quand Dieu a envoyé une épreuve à soulever la communauté, nous voyons comment la division qui s'accompagne des bagarres, qui s'accompagne des luttes, pour démontrer tout simplement que le cœur de toutes ces personnes est totalement un cœur qui est rempli d'orgueil et qui est un cœur qui est dans le monde. Et voilà donc comment beaucoup de familles aujourd'hui, où des frères ont été bien bénis par le Seigneur, finissent dans la catastrophe, beaucoup ont même fini dans le divorce. Vous connaissez le nombre croissant de divorces qu'il y a dans la maison de l'Éternel. Quand ils n'avaient rien, les deux étaient humbles. Quand ils n'avaient rien, les deux cherchaient ensemble. Et quand la grâce de Dieu s'est abattue sur eux, c'est là où les problèmes ont commencé, qui sont arrivés jusqu'au divorce, qui sont arrivés jusqu'à la division de l'Église, et qui sont arrivés jusqu'à la séparation, parce que les gens étaient totalement ancrés au bien, et l'héritage qu'ils ont laissé à ceux qui sont après eux, c'est une église détruite, une famille détruite, des enfants qui sont ballottés, qui n'ont plus ni père ni mère, et qui sont obligés de se retrouver dans la famille de leur mère avec un autre homme, ou dans la famille de leur père avec une autre femme, et qui à la fin n'ont plus de vie, parce que ces bien-aimés ont même fini par trouver une philosophie qui leur permet de se marier, bien que sachant qu'ils sont en train de vivre dans l'adultère. Quel héritage, Ézéchias a-t-il laissé à ses enfants? Parce que il ne marchait plus dans la droiture, il ne marchait plus dans l'intégrité du cœur, il ne marchait plus dans la haine du péché. À la fin de son existence, son cœur était totalement rempli d'orgueil, de suffisance de soi. Bien-aimé, on peut bien commencer, mais simplement bien terminer, mal finir. Mais ce soir, ce que je veux dire, c'est quel héritage? Laissons-nous à notre progéniture. Et quand je parle de progéniture, je parle d'une progéniture spirituelle, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur a mis autour de nous et que nous en sommes appelés à encadrer. Et je parle de notre progéniture physique ou naturelle, nos propres enfants. Beaucoup d'enfants, de chrétiens aujourd'hui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand leurs parents ont grandi dans l'amour, dans l'argent, ils les ont plutôt amenés dans les piscines, dans les plages, ils les ont amenés dans les cinémas, ils les ont amenés non plus dans les camps bibliques, non plus dans, mais c'est dans les excursions mondaines, ils les ont envoyés en Europe, et puis, enfin on n'a pas interdit toutes ces choses. Mais voilà l'héritage qu'ils ont donné à leurs enfants. Et à la fin de toutes ces choses, les parents étaient divisés. Les parents étaient séparés, les parents étaient divorcés. Nous avons une deuxième qualité de personne qui est Akab, qui certainement lui n'a pas marché dans la justice de Dieu au commencement de sa vie. La Bible nous dit que c'était un homme vendu au péché. 1 Roi chapitre 21 verset 25 et 26. Lui, il était vendu au péché.
1 Roi chapitre 21 verset 25 et 26. Il n'y a eu personne qui ne soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Il a agi de la manière la plus horrible, se ralliant aux idoles, tout comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites.
Akab était aussi un fils d'Israël qui avait pour père Abraham, Isaac et Jacob. Mmh. Mais un qui s'est vendu au péché. Dans l'église, vous avez trouvé ces genres de personnes qui adorent, louent le Seigneur, mais qui se sont vendus au péché. Ils ont fait de leur maison le lieu de commérage, le lieu pour dresser les pièges aux pasteurs, aux frères, aux sœurs, pour détruire les autres communautés, pour lancer le commérage. Et ils le font devant leurs enfants. Ils le font devant les autres personnes. Et là, au lieu de recevoir la bénédiction, comme nous l'avons dit une fois, vous êtes dans votre propre maison, d'autres sont bénis, vous n'êtes pas bénis. Au lieu de recevoir la bénédiction de l'Éternel, ils reçoivent plutôt la malédiction. Des gens qui ont bâti des églises, qui sont une synagogue de commérage, de médisance, une synagogue de mal, dans laquelle on fait des projets de destruction des autres serviteurs, des projets de destruction et de division. Des gens qui arrivent dans des réunions d'anciens, de diacres, chacun rempli de sa pensée de destruction contre l'autre. Des gens qui sont véritablement vendus au péché. La Bible nous dit que Akab avait détruit Naboth à cause de sa vigne. Et sa femme, Jézabel, qui l'y excitait, n'a pas eu peur de tuer Naboth au nom de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Il demande qu'on cherche deux témoins qu'ils vont déposer contre Naboth, deux méchants, il dit même deux témoins, deux méchants, qui vont déposer contre Naboth en disant qu'il a maudit le roi et qu'il a maudit Dieu. Et un faux tribunal va se lever. On a cherché deux faux témoins qui ont, au nom de l'Éternel, elle connaissait bien la parole de l'Éternel. Elle savait que il suffit qu'on déclare que quelqu'un parlait contre Dieu, qu'on va le lapider. Et c'est au nom de l'Éternel que Jézabel va tuer Naboth. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand le prophète Élie allait vers Akab, Akab s'est humilié et Dieu lui a pardonné ce péché. Mais sa vie était suffisamment mauvaise pour que l'héritage qu'il va laisser à ses enfants soit tout simplement un désastre. Beaucoup de chrétiens ont épousé des Jézabel comme ça, ces femmes mondaines ou ces frères mondains qu'on croyait changer en chemin, c'est eux qui nous ont changés. C'est eux qui les ont changés. Et après, ils ont vendu leurs enfants à Moloch, les emmenant chez les sorciers, les marabouts. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? Les hommes s'attellent à pouvoir laisser l'héritage matériel. Des frères aujourd'hui se battent. Chacun qui commence à travailler cherche un terrain pour pouvoir construire quelque chose. Mais en réalité, ces enfants ne jouiront même pas de ces choses parce qu'après leur mort, les enfants vont passer le temps à se bagarrer, à lutter, à détruire, à salir. Parce qu'en fait, on n'a pas laissé l'héritage qu'il fallait. La Bible nous dit dans le psaume 37, versets 25 et 26, le type d'héritage que nous pouvons laisser à nos enfants.
J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours.
La Bible parle de la marche dans la justice. Celui qui marche dans la justice laisse un héritage de bénédiction permanente à ses enfants. Si vous ne construirez pas, vous n'avez pas pu construire une maison pour vos enfants, ils ne manqueront pas de pain. Ils n'auront pas un héritage matériel d'une maison construite par leurs parents, mais la Bible est claire, ils ne mourront pas de faim. Ils ne manqueront pas de pain. Si vous ne mourrez et vous n'êtes pas dans l'abondance, eux, ils ne mourront pas dans la pauvreté. C'est-à-dire que vous ne leur avez pas laissé un héritage, une abondance. Mais eux, ces enfants, bien que n'ayant pas eu de l'abondance de leur père, la Bible proclame qu'ils ne mourront pas dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps de leur vie, de sa vie, le père a marché dans la justice. Celui qui fonde sa vie dans la haine du péché, avec pour élément de vie la droiture et la justice de l'Éternel, la paix habitera toujours dans sa demeure. Et la Bible dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. C'est le verset 27 du psaume que nous avons lu. L'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Vous pouvez tout faire d'un homme que Dieu a béni, vous ne pourrez jamais détruire la bénédiction qui est sur sa tête. Vous pouvez même lui voler toute la bénédiction à un moment précis. Il ne vous poursuivra pas parce que vous n'aurez rien fait. L'Éternel a gardé pour lui une richesse de bénédiction telle que cet homme ne manquera de rien. Ce sont les saintes écritures qui le disent. Même s'il il est pauvre, qui ne marche pas, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison, mais il ne manquera pas son pain, disent les saintes écritures. Et sa postérité ne mendiera jamais. D'ailleurs, la Bible dit il est toujours compatissant et il prête. C'est là où vous verrez celui qui est béni de l'Éternel. Toujours compatissant et il prête. Parce que jamais il ne manque de quelque chose. Et le psaume va ajouter au psaume 15, versets 1 à 2.
Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur.
Qui séjournera dans ta tente? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà celui qui va rester dans la tente de l'Éternel, et qui ne manquera de rien pendant toute sa vie. Il n'a pas besoin de se construire des maisons. Il aura toujours un abri. Il n'a pas besoin de multiplier les richesses. Il ne manquera de rien. Parce que la grâce de l'Éternel l'accompagnera toujours pendant qu'il dort et que les autres travaillent, l'Éternel le bénira. Bien aimé, quel genre de richesse laisses-tu à tes enfants? Quel genre de richesse? Une vie de péché, une vie de mensonge, une vie d'idolâtrie, une vie de cupidité, alors qu'au départ, tu as marché dans l'intégrité. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et que sa grâce nous accompagne.
Festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à genoux pour l'adorer. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Les anges répètent sans cesse, adore Dieu, adore Dieu. Sers-le lui seul. Je vous invite à entrer dans cette adoration, à continuer sur ce chemin qui nous a été ouvert.
Viens, ne tarde plus, adore.
Quel type d'héritage léguons-nous, laissons-nous, cédons-nous à nos enfants? Nous pouvons ainsi définir, nous pouvons ainsi décider de ce que nous transmettons à ceux qui sont nos procédures. Nous bénissons le Seigneur, nos progénitures, pardon, nous bénissons le Seigneur pour ses paroles, pour ses interpellations encore qui sont données de la part du Seigneur par le pasteur Emmanuel Koum. 77-96-29-29, c'est le code par lequel vous avez droit de participer, de prendre part à cette émission en appelant, chers amis auditeurs. Vous êtes sur la fréquence de Villa 107.8, la radio Vie Nouvelle, et vous écoutez au rythme de Dieu. Au rythme de Dieu, ce soir, nous parlons de l'héritage, l'héritage que nous léguons, que nous cédons à notre progéniture. Quelle nature, quelle qualité, quel type d'héritage nous réservons pour nos enfants? C'est ce dont nous avons parlé ce soir, avec trois exemples. Le premier, celui de Salomon, qui a vécu en présence, dans la plénitude, l'abondance avec le Seigneur, mais qui a lâché vers la fin de sa vie à cause de tout ce qu'il avait accepté comme prostitution spirituelle dans sa vie. Ainsi, pouvait déterminer, à la limite, pouvait être à la base de la division du peuple de Dieu, l'acte qu'il a posé à conséquence pour l'ensemble du peuple. Également, l'exemple de Akab, qui n'a du tout pas marché dans la crainte de Dieu, et de toute évidence n'a récolté ou n'a fait que récolter ce qu'il avait semé. Et le cas de Josaphat également, qui a marché dans l'observance de la parole de Dieu, mais qui, à cause de ses biens, à cause de l'attachement à ce qu'il avait reçu et non à celui qui avait donné, a choisi, a été content de vivre dans la paix, a été préoccupé plutôt de vivre dans la paix, et pas de soucis pour ses enfants qui devaient passer par des moments troubles. Quel est l'héritage que vous voulez apporter à vos enfants? Quel est l'héritage que vous voulez céder à votre progéniture? Et ça me rappelle cette histoire où des enfants de Dieu qui... des parents qui ont cheminé avec le Seigneur et qui, à un moment, pour une raison ou pour une autre, estiment qu'il n'est pas bien que leurs enfants également participent à des camps bibliques, à des réunions, à l'église et bien d'autres pour diverses raisons. Quelle est la valeur que nous communiquons à nos enfants? Quel est l'essentiel de la vie que nous communiquons à nos enfants? Est-ce cette valeur spirituelle, l'attachement au Seigneur qui détermine toute chose et qui est au-dessus de toute autre chose? Chers amis auditeurs, vous pouvez appeler, participer en appelant au 77-96-29-29 ou alors envoyer un SMS à ce numéro également. Nous allons ensemble continuer de partager sur ces paroles, cette exhortation du pasteur Emmanuel Koum, que vous pouvez joindre, contacter au 70-78-87 ou alors au 94-35-44-54. C'est le numéro par lequel vous pouvez avoir le pasteur Emmanuel Koum qui nous a entretenu ce soir. Et nous souhaitons et espérons véritablement que vous avez été bénis au-delà de ce que vous espériez pendant ce soir. Et très rapidement, pasteur, nous voulons rappeler que nous avons une campagne d'évangélisation dans le cadre de l'opération Jéricho, oui, avec Campus Focus en début du mois d'avril. Ce sera
un village, Corfo, qu'on appelait J'ai raté ma vie,
et qui va changer de
nom. Nous croyons, nous appelons les frères à prier, et nous croyons que le Seigneur touchera ceux qui sont appelés au salut pendant toute cette période. Nous ferons des portes à porte pendant une semaine, du 29 au 3. Ce sont des portes à portes le matin, dans l'après-midi, et puis la nuit à partir de 21h pour une équipe spéciale qui devra être en contact avec les prostituées, hommes comme femmes, bien évidemment. Ça, ce serait pendant une semaine, et la deuxième semaine, nous allons avoir des prédications publiques enrichies par des films.
C'est le programme de cette campagne d'évangélisation. Nous comptons sur la grâce et sur la providence du Seigneur par rapport à cet événement, ce rendez-vous très important pour le salut des âmes. Et le Seigneur pouvait dire que le salut des âmes, c'est la première préoccupation, la première mission qui nous est accordée. Et certainement, il faut également rappeler que samedi prochain, au restaurant, la réunion de Capital, la réunion de prière de 8h à 12h, source de bénédiction, ça m'est revenu. Donc déjà pour ceux qui souhaiteraient y aller, qui sont concernés directement. Chers auditeurs, nous bénissons le Seigneur pour ces moments pendant lesquels nous croyons que vous avez été richement bénis. Mardi prochain, ce sera un autre jour. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'héritage que nous léguons à nos enfants. Et cet héritage qui dépend de nous en tant que parents, également de nous en tant que futurs parents. À la prise de son ce soir, Emmanuel Sonfak, sur ce plateau, le pasteur Emmanuel Koum, que vous pouvez joindre en appelant 70 78 77 ou alors au 94 35 44 54 94 35 44 54. Moi, j'étais Guy Augustin Kentop. Mardi prochain, par la grâce de Dieu, nous serons très contents de vous avoir encore. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce vous accompagne pendant tout ce temps. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Au rythme de Dieu, la communauté CBC Makepé Israël, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Aux heures avancées de la nuit,
on partage nos joies et peines sur 107.8 FM.
Et on parle même de nos petits secrets.
On échange de 23h à minuit.
Dans une intimité agréable et paisible.
Beaucoup de chrétiens font face à de nombreux obstacles dont l'évangélisation, l'ignorance, la peur, la honte, les complexes, le manque de techniques et d'outils appropriés. Passez à une nouvelle dimension dans votre marche avec Dieu, en vous connectant sur Radio Vie Nouvelle tous les mercredis entre 11h et 12h pour une nouvelle émission Coup de pouce. Devenez des gagnants d'âmes et suiveurs efficaces avec l'évangélisation comme mode de vie, le discipulat catalytique et un leadership de transformation. Coup de pouce, une émission à ne rater sous aucun prétexte.
Un cœur qui parle. Un cœur qui parle. Une oreille pour votre cœur.
Oreille pour votre cœur.
Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux chercher conseil.
Depuis 10 ans de mariage, ma femme n'accouche pas. Elle est un peu chez nous.
Je peux pas faire quoi, mais elle est pas dans.
Il m'a violé 3 fois et il me menace de mort si je dis à quelqu'un.
Ça fait 4 fois que je rate le bal, malgré l'intervention de plusieurs maris.
Viens,
pasteur qui parle, tous les mercredis, 15h-16h30.
15h-16h30.
Vous en parlez, nous sommes là pour vous aider.
Sur la fréquence de vie,
avec un cœur qui parle, brisez tous les tabous.
Vous tendons la main, saisissez la main.
Un cœur qui parle.
Radio Ville Nouvelle.
Il y a des questions que l'on se pose. Il y a des questions que l'on n'ose pas articuler à haute voix, mais qui retentissent avec une force incroyable au-dedans de nous. Devant les difficultés de la vie, nous nous demandons si Dieu est injuste, s'il est silencieux ou encore s'il se cache. Déçu par Dieu, c'est un livre qui répond à ces questions avec une clarté teintée d'autorité basée sur la parole de Dieu. Déçu par Dieu de Philippe Yoncey, à découvrir dans le Club des Noctambules tous les mardis et vendredis à partir de 21h30.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs, bienvenue à tous au Club des Noctambules. Le Club des Noctambules, c'est votre rendez-vous de tous les mardis, tous les vendredis, 21h30, 22h30, sur Radio Vie Nouvelle. Le Club des Noctambules, c'est une émission de découverte. Ensemble, nous parcourons le témoignage des gens, nous examinons, nous observons avec beaucoup d'attention les réalités que ces personnes ont vécues, leurs expériences, ces personnes qui nous relatent des faits. Nous découvrons des choses qui nous environnent, qui ont de l'influence sur notre vie, mais qui parfois passent inaperçues. Du Club des Noctambules, nous parcourons à présent le livre de Philippe Yoncey, Déçu par Dieu. Déçu par Dieu, c'est le livre de personnes qui ont eu le sentiment qu'à un moment de leur vie, Dieu les avait abandonnés. À ce micro de présentation, je suis presque un galamon à la mise en onde du